Chapitre 8. Eh bien, nous allons tout vous dire en deux paroles, s'écria Regina en levant ses beaux yeux humides sur mon visage, comme pour m'interroger ou me fléchir. Mais d'abord, reprit-elle en s'interrompant, comme si elle eût commis une étourderie, folle que je suis, dit-elle, j'ai une lettre pour vous et je ne vous la donne pas. En disant cela, elle tira de son sein une feuille de papier pliée en cœur et me la remit toute chaude encore de la chaleur de sa robe. Le papier n'était pas cacheté, je l'ouvris. Je reconnus la main de Salus et je lus. Château fort de État romain. Celle qui te remettra ce papier est plus que ma vie. Je suis prisonnier, mais je me sentirais libre si elle était libre au moins elle. Elle va en France cacher son existence et son nom. Je ne puis l'adresser qu'à toi. Cache-moi mon trésor et sois pour elle ce que j'aurais été pour celle que tu as aimée. Salus. Je ne fus nullement surpris de cette lettre et de la prison d'État d'où elle était datée. Les lettres précédentes de Salus m'avaient assez préparé à quelque catastrophe de ce genre. Cependant, je fis une exclamation de douleur plus que d'étonnement. Hélas, oui, dit la vieille femme, en nous sauvant, il s'est perdu, lui. Mais patience, le procès se jugera, j'ai des amis encore dans les juges. La justice triomphera, je n'en doute pas. Et l'amour, s'écria la jeune fille, en baisant un portrait qui était incrusté dans un bracelet au bras de la comtesse et dans lequel je reconnus le portrait de Salus. Alors elles me racontèrent tour à tour et souvent toutes deux à la fois le dénouement d'une passion dont je connaissais déjà toutes les phrases par la correspondance de mon ami. Des torrents de larmes furent versés pendant ce récit par les deux étrangères. Je retenais à peine les miennes. Elles finirent par implorer mes conseils, ma direction et mon appui pendant l'exil auquel les condamnait leur infortune. Si l'amitié et la pitié n'avaient pas suffi pour me commander le plus absolu dévouement à leur sort, la merveilleuse beauté de Regina ne m'aurait pas laissé la faculté même d'hésiter. Son regard, sa voix, son sourire, ses larmes, le tourbillon d'attraction dans lequel elle entraînait et subjuguait tout ce qui l'approchait, ne me faisait sentir que le bonheur de me dévouer à la fois à un devoir et à un entraînement. Je n'étais pas amoureux. L'état de mon âme, mon devoir envers mon ami captif, m'aurait fait un crime de la seule pensée de l'aimer. Mais j'étais bien plus qu'amoureux. Ses regards avaient absorbé ma volonté. Je m'étais senti pénétrer dans cette atmosphère de rayons, de langueur, de feu, de larmes, de splendeur et de mélancolie, d'éclat et d'ombre qui enveloppait cette magicienne de 20 ans. Je l'aurais suivie involontairement comme la feuille morte suit le vent qui court. Un ami, un sauveur, un frère, un complaisant, un esclave, un martyr, une victime volontaire, elle pouvait tout faire de moi, tout, excepté un amant. Elle le voulut et elle le fit. Je dînais avec les deux étrangères, je restais longtemps encore après, à la fenêtre sur les prés qu'éclairait une belle lune, à causer à voix basse avec Regina de son amour et de mon malheureux ami. Sa grand-mère, malade et toujours couchée sur le matelas, gémissait et soupirait dans l'ombre de la chambre sur l'horrible perspective de mourir à l'étranger, en laissant sa petite fille à la merci de l'exil ou de la tyrannie qui voulait opprimer son cœur. Je la consolais par l'espérance de la liberté sans doute bientôt rendue à Salus et par mes protestations de dévouement à leur infortune passagère. Nous roulions différentes idées dans nos esprits sans nous arrêter à aucune. Enfin, je les engageais à se reposer toute la matinée du lendemain au pont de Pagny pour que ce repos rendît des forces à la comtesse. Je lui promis de revenir le soir du jour suivant me mettre à leurs ordres pour les suivre là où elles auraient décidé d'aller s'établir. Je dis à la grand-mère de me regarder comme un fils, à Regina de se fier à moi comme à un frère. En retrouvant dans ma bouche les mots et l'accent de leur patrie que j'avais conservés depuis mes longs séjours à Rome, elles croyaient retrouver leur ciel et leur nature. Je pris congé d'elles et je remontai lentement, les yeux tout éblouis, l'oreille toute sonnante, le cœur tout troublé, les gorges creuses et sinistres qui serpentent du pont de Pagny au château d'Urcy. Mon oncle dormait depuis longtemps.